renouvelables,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
démocratie,
respect de la vie,
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Délirium environnemental, parce que pour brasser les idées, il faut les brasser. C'est simple, en environnement, plein de nouvelles cette semaine, vous en redemanderez. Et bien, comme toujours, en première heure, on part avec une revue de l'actualité. On vous parle de nos députés qui en ont plein les bras avec l'énergie. On fait également le point sur la saga de l'autoroute 25. On vous parle du plus meilleur pays du monde qui fait rien contre les changements climatiques. On parle du Canada, bien sûr, et on parle d'espèces menacées, d'OGM et bla bla bla. Finalement, en dernière partie, manquez pas Jean-François Gagnon, qui est le directeur général de la Société pour la nature et les parcs, qui vient nous parler des aires protégées au Québec, plus particulièrement de la menace qui pèse sur le parc d'Oka et le parc du Morford. Et on termine coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine. Patrick Bonin, toujours au micro, en remplacement de Sofiane Legendre, qui, comme l'écureuil roux, on suppose, ressortira probablement de sa dormance sous peu pour venir et d'être encore une fois en congé cette semaine, pour ceux qui l'espèrent. Oui, l'écureuil roux, on se souvient que l'écureuil roux sort de sa dormance deux semaines plus tôt en raison des changements climatiques, qu'on l'oublie pas. Patrick Bonin en compagnie de Nicolas Mainville et Nicolas Milo, deux chroniqueurs étoiles encore cette semaine. Cette semaine, Étienne Côté-Paluc qui est à Boston. Nous avons Hugo Lachapelle à la régie. Évidemment, je vous rappelle encore une fois que Délirium environnemental, c'est un site web, donc je vous invite à aller visiter le site web au www.radiodelirium.net. Finalement, il faut absolument parler de ça cette semaine en partant. Ça fait quelques semaines qu'on en parle. 15 000 espèces dans le monde sont menacées. Le Canada vient de rajouter 73 espèces sur la liste des espèces menacées au Canada. Eh bien, pour leur rendre hommage aujourd'hui et pour vous nous aider probablement à nous identifier, vu que vous allez entendre trois voix d'hommes, des grosses voix rauques, eh bien, nous allons tenter de recréer les cris de certains animaux pour nous reconnaître avant de commencer à parler. Donc, Nicolas Mainville, tu vas, à chaque fois que tu vas commencer à parler, tu vas nous faire le cri d'une espèce de mammifère, car une espèce de mammifère sur quatre est menacée. Alors, donne-nous un exemple. Oh, et on a reconnu, bien sûr.
Oh oui, c'est le lemming des prairies qui est en fait en période de rut.
Le lemming des prairies. Eh bien, Nicolas Milo va nous faire le cri d'une espèce d'oiseau, parce qu'une espèce d'oiseau sur huit est menacée dans le monde. Nicolas Milo, avant de parler.
Allons-y avec un petit Vous avez reconnu le butor d'Amérique.
Le butor.
Ben, le butor.
Évidemment. Eh bien, moi, je ferai des cris d'amphibien parce qu'une espèce d'amphibien sur trois est menacée et ça ressemble à cela. C'était la rainette faux-grillon avec un mal de gorge hivernal, vous allez me pardonner. Et passons. Désolé, on a notre régisseur ici, Hugo Lachapelle, qui m'informe qu'il veut également participer. Eh bien, Hugo Lachapelle nous fera les poissons. Allez, Hugo, vas-y. Merci, Hugo. Excellent. C'était le saumon socaille en voie de disparition au Canada. Donc, on est dégourdi un petit peu. Je pense qu'on peut commencer quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Quoique c'était très sérieux, ces espèces en voie de disparition, les espèces menacées. Je vous invite à aller voir le lien. On va mettre le lien pour ces espèces au Canada.
D'ailleurs, on a un gros bloc sur la biodiversité tantôt. Manquez pas ça.
Un intéressant bloc, en effet. Mais on va commencer d'emblée cette semaine avec, on a parlé en introduction, le dossier énergie. Entre autres, dans le soleil de cette semaine, on parle beaucoup d'énergie. Et pourquoi parle-t-on tant d'énergie au Québec? Nicolas Milo, tu nous en parles.
Eh bien, c'est cette semaine qu'après des mois et des mois, on devrait-tu discuter encore de comment que c'est que l'on veut faire de l'énergie au Québec? Eh bien, elle s'ouvre enfin cette consultation. Dans le fond, c'est une commission parlementaire sur la sécurité et l'avenir énergétique du Québec. Une commission qui devrait, bon, dans le fond, joindre les trois buts suivants. Rejoindre les attentes de la société québécoise face à l'énergie, contribuer à assurer la sécurité énergétique et finalement dynamiser le développement économique et durable au Québec. Beaucoup de mots qui se contredisent. Je suis pas sûr que ces gens-là savent vraiment de quoi ils parlent. Mais chose certaine, il y a à la fin de leur document une petite phrase qui revient souvent, c'est que le gouvernement, par cet exercice, souhaite sensibiliser les citoyens aux principaux enjeux auxquels le Québec est confronté. Et donc, ce qui est un peu dommage, c'est que dès le départ, on se rend compte que cette belle
organisation de consultation et d'activité publique, eh bien, elle semble servir aux yeux du gouvernement davantage à faire du PR auprès de la population et à faire en sorte que on va avoir expliqué aux gens comment les choses se passent, puis après ça, ben, laissez-nous prendre des décisions qu'on voudra bien prendre. C'est un peu le ton sur lequel est lancé. Quoique aujourd'hui, on vous rappelle qu'on est rediffusé, donc mardi de cette semaine, le 25 janvier, la première allocution à la commission était allouée à M. Hydro-Québec lui-même, M. André Caillé. Eh bien, M. André Caillé, qui, ma foi, a l'air tellement gentil dans sa première allocution, qui nous dit que Hydro-Québec, eh bien, on prend le virage du développement durable. Hydro-Québec regrette, on ne fera pas de thermique. Et Hydro-Québec, on a compris, on va faire de l'éolien et des énergies renouvelables.
Donc, pas de gaz naturel pour Hydro-Québec.
Je
me souviens qu'il y a un petit peu plus d'un an, on y avait 11 projets de centrale, M. Caillé dans sa manche. Donc, on voit que le discours a changé. C'est quand même une bonne chose à première vue.
C'est une bonne chose à première vue. Espérons maintenant que c'est pas simplement profitons du début, passons des messages pour bien lancer la chose, puis après ça, essayons de les renterrer petit à petit au fur de la commission. On vous rappelle que c'est une commission qui doit se dérouler tout au long du premier trimestre 2005, selon ce qu'il y aura premier semestre, pardon, 2005, donc les 6 premiers mois de 2005, selon ce qu'il y aura, dans le fond, à discuter. Les discussions ont commencé à compter du 25 janvier 2005, et comme on vous rappelle, il y a eu une grosse polémique à savoir jusqu'à quand les mémoires pourraient être déposées. Eh bien, le gouvernement a voulu se montrer très, très clément, continue d'accepter des mémoires au fil des audiences s'ils sont pertinents, mais par exemple, ça ne voudra pas dire que les mémoires déposées par après auront le droit de parole.
130 mémoires jusqu'à maintenant qui ont été déposées, donc on s'attend à ce que ça continue jusqu'en mars. On verra jusqu'à quel point ça peut aller. Plusieurs critiques ont été émises par rapport à cette consultation-là. Entre autres, par rapport au document de consultation qui a été sorti, on présente toujours un document avant une commission parlementaire qui orientera la commission parlementaire. Eh bien, ce document, beaucoup de gens se sont posé des questions à savoir, mais quel genre de document on a là? C'est un document dit arriéré, archaïque. Dans le document, juste pour vous parler un petit peu de ce document, parce que c'est vraiment important, écoutez, on a relevé le nombre de mots présents dans le document. En aucun temps, on voit le mot autoproduction, on voit le mot hydrogène une fois, solaire deux fois, géothermie deux fois, Kyoto cinq fois. Et lorsqu'on parle du gaz, combien de fois vous pensez?
Oh, une centaine de fois.
121 fois, on a le mot gaz et éolien 49 fois. 145 fois en tout, si on inclut dans gaz, gazier, gazière, gazifère, gazoduc et blablabla. Bla, bla. Et beaucoup de gens, en fait, M. Lessard de la presse ou du Soleil, je crois, soulevaient le point que Stéphane Bertrand, qui est un ancien président de Gaz Métropolitain, qui est le chef de cabinet de M. Charest, aurait renvoyé, entre autres, M. Hamad à la table à dessin, ou plutôt à l'écriture, pour donner davantage de place, justement, à l'aspect gaz dans cette commission parlementaire. On verra ce qui va en sortir. On va en reparler probablement la semaine prochaine. Justement de gaz, de pollution. Eh bien, on a des nouvelles encourageantes cette semaine par rapport justement à la pollution. Vous connaissez peut-être ce fameux principe, dit le principe de pollueur-payeur. Ça dit tout. Eh bien, semble-t-il que ce fameux principe n'est pas encore appliqué tant que ça. Et on aurait quelque chose qui ressemblerait à une première ou je ne sais quoi au Canada. Nicolas Milo, tu nous en parles.
Mais oui, le fameux principe pollueur-payeur qui veut dans le fond qu'une personne qui a pollué soit responsable des coûts de la décontamination ou de la dépollution, bref, sous toutes ses formes. Eh bien, il y avait toujours un espèce de litige à savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est propriétaire ou responsable des activités que c'était autrefois quelqu'un d'autre qui, dans le fond, qui faisait et qui ont contribué à de la pollution. Des cas qu'on a au Québec, par exemple, les lagunes de Mercier. C'est un cas qui est très, très médiatisé au Québec. Les lagunes de Mercier, aujourd'hui, il y a un incinérateur qui est exploité par une compagnie. Il y a de la pollution qui a été faite dans les années 70 et aujourd'hui, la compagnie dit « c'est pas nous qui a pollué, donc on ne peut pas être contraint à payer, selon le principe du pollueur-payeur, à faire ce que d'autres avant nous ont fait, même si on est aujourd'hui les propriétaires des installations. » Eh bien, cette semaine, la Cour suprême du Canada a confirmé dans un jugement que le principe du pollueur pollueur-payeur s'imposait à ces cas-là en, dans le fond, en imputant à BC Hydro, qui est l'équivalent de Hydro-Québec, de s'acquitter des frais de nettoyage d'un site qui était autrefois la propriété de BC Electric Corporation, qui, eux, avaient pollué. Donc, c'est un cas, c'est un premier cas au Canada, et c'est un cas qui peut faire jurisprudence, parce que justement, on pense aux commerciers qui pourraient rapidement, qui est en blocage juridique depuis 10 ans. Imaginez-vous, ça fait 10 ans que le ministère de l'Environnement et que la compagnie Laidlaw de Mercier, eh bien, se renvoie la balle parce que c'est la responsabilité de personne. Eh bien là, ce jugement-là vient dire à Laidlaw, en ayant acheté l'ancienne compagnie, vous avez acheté aussi ses actifs et ses dettes et vous êtes responsable de la pollution qui a été faite dans le temps.
Intéressant, on se rappelle ce que beaucoup d'entreprises soulevaient, le point justement qu'avant, dans le temps, lorsqu'ils exploitaient le terrain, par exemple, les lois étaient moins sévères, donc on ne pouvait pas revenir contre l'entreprise qui avait pollué au départ, mais là, de voir qu'on peut revenir contre celle qui a racheté le terrain, c'est vraiment intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est qu'une phrase dans le jugement, c'est que la Cour suprême reconnaît le principe de responsabilité intergénérationnelle. Et ça peut faire une grosse différence.
Ce serait le fun de voir ces décisions-là prises ici au Québec. On pense entre autres à l'exemple du quai 103 à Montréal avec une contamination effarante sur les rives du Saint-Laurent qui ont quand même des liens avec des pétrolières et peut-être qu'on pourrait...
Un montage financier a d'ailleurs été fait pour commencer
on
les contaminants.
On enlève les contaminants.
Donc,
on est rendu là. Calme, moi je suis pas mes aussi.
Non, en effet. Mais on va quand même parler d'argent encore une fois, pollueur-payeur. Eh bien, cette fois, est-ce que Ottawa au Canada serait éventuellement un pollueur-payeur? Est-ce qu'Ottawa aurait déboursé de l'argent? Entre autres, on parle de Kyoto parce que Ottawa ne semble pas parti pour atteindre les objectifs de Kyoto. Et on a un nouveau plan budgétaire au Canada. Nicolas Mainville, j'aimerais que tu nous expliques cela.
Ben en fait, c'est des plans toujours provisoires. Vous savez, la semaine passée, on annonçait ce super plan secret, le document secret qui avait été découvert par les journalistes canadiens qui nous disaient, bon, il y a des négociations comme quoi qu'on est en train d'amoindrir les efforts de l'industrie canadienne pour, évidemment, les objectifs de Kyoto. Vous connaissez sans aucun doute Kyoto, les efforts qui sont faits pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, cette semaine, on ressort avec un nouveau plan, un plan de 3 milliards additionnels qui serait relancé sur la sellette pour atteindre ces objectifs-là de Kyoto. Et on nous assure, encore une fois, de sources non citées. Tout est bien protégé dans ce monde de Kyoto et des négociations, puisque Kyoto va rentrer en application le 16 février, donc il n'y a rien d'officiel encore.
Sauf que ça semble quand même des sources assez fiables.
Assez fiables,
assez fiables. Dans les gros journaux, quand même.
Exactement. Très gros journaux, des fois un peu trop gros, ça produit beaucoup de papier, mais bon.
Concentration!
donc, tout ça pour dire que ce plan, selon les dires, atteindrait les objectifs de Kyoto. Parce que vous savez que la rumeur était qu'on serait même pas capable d'atteindre ces objectifs-là. Donc le plan qui rajoute 3 milliards inclurait entre autres un fonds de 1 milliard en vue d'acheter 100 mégatonnes de réduction d'émissions. Vous savez, toute cette question de crédit de carbone qui revient souvent dans les discussions. Eh bien ce 1 milliard pour acheter les 100 mégatonnes serait comme une nouveauté dans le plan d'action. On parle aussi de rabais de 2 000 $ pour les acheteurs de véhicules à faible consommation d'essence. En fait, des allègements fiscaux destinés à encourager aussi la cogénération. En fait, plusieurs processus ou je dirais stratégies pour encourager les gens à consommer moins et à polluer moins. Mais le seul problème, c'est qu'encore une fois, on ne voit pas les grands pollueurs sur la sellette. Donc ce plan-là qui totaliserait un 6,7 milliards pour Kyoto, on ne parle pas encore des gros pollueurs, ce qui inquiète évidemment les environnementalistes partout sur la planète.
Gros pollueurs.
La planète canadienne, pour le moins.
La planète. Gros pollueurs, évidemment, tu parles d'une législation qui forcerait ces gros pollueurs-là, entre autres les industries et les compagnies pétrolières.
Évidemment, on parle surtout des productrices d'énergie à base de combustibles fossiles, donc charbon, pétrole, gaz naturel, mais aussi les manufacturiers et les compagnies d'automobiles qui demandent une quantité d'énergie effarante pour produire leurs produits.
Donc le Canada qui se traîne la patte et qui va être obligé de payer pour atteindre ses objectifs de Kyoto, d'acheter des crédits d'émission.
C'est le programme qui s'installe un peu partout dans le monde avec ce marché de crédit de carbone. Si on met ce plan de 1 milliard, on va pouvoir inciter les compagnies à recevoir une partie de ce 1 milliard-là pour produire des crédits de carbone. C'est-à-dire que si elles vont atteindre leur objectif de Kyoto, personnellement, ces compagnies-là, elles vont pouvoir recevoir de l'argent en redevance pour les efforts qu'elles auront faits. pour Kyoto. Donc, c'est évidemment quelque chose d'intéressant si ça fonctionne et si les compagnies embarquent, mais c'est quand même des grosses dépenses par le gouvernement et c'est encore une fois l'industrie qui, pour l'instant, leur quota n'est vraiment pas élevé. On parlait la semaine passée de l'industrie de l'acier qui était à 15% de réduction de leurs émissions et c'est tout basé sur les quotas. Donc, tout dépendra de comment le gouvernement canadien fixe ses quotas et pour l'instant, on ne le sait pas encore. Mais bon, c'est évidemment quelque chose qui est à suivre puisqu'il n'y a rien d'officiel.
Avons-nous besoin de dire qu'on n'est pas très fiers parce que ça fait longtemps qu'on sait que Kyoto arrive ou plutôt devait rentrer deviendrait éventuellement une loi et le Canada a tergiversé quand il s'est rendu compte que justement ça signerait que ça deviendrait ça aurait force de loi mm-hmm. Et bien là il essaie de se rattraper à la minute donc gros blâme au Canada.
Ah, c'est du bout de tuyau, en plus ça réagit aux articles même dans les journaux, là on se défend, même M. Dion qui dit ah non inquiétez-vous pas, on va s'en sortir. Il nous reste moins d'un mois, mais bon, semblerait qu'on est optimiste dans les coulisses.
Bon, optimiste, ben peut-être juste pour leur rappeler l'ampleur de ce problème des changements climatiques. Je pense que c'est important de souligner une petite étude qui a été faite par des experts qui parlent justement d'un point de non-retour même.
Ben oui, en fait, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, la référence en termes de changement climatique sur la planète, qui nous disent, bon, on avait craint un certain point de non-retour où les changements climatiques deviendraient une espèce d'effet boule de neige où est-ce que de plus en plus ça affecterait la santé et la qualité de vie autant des humains que du reste des espèces. Eh bien apparemment, selon le nouveau directeur du GIEC, ce groupe de recherche, eh bien on aurait déjà atteint ce stade et puis ça ne fait pas vraiment l'affaire de l'administration Bush puisque vous savez que l'administration Bush, ce genre de déclaration-là, elle tente de les minimiser le plus possible. Et d'ailleurs, en 2001, ExxonMobil, vous connaissez cette méga multinationale, avait fait des très grosses pressions au sein de ce groupe d'experts sur le climat pour que la tête du groupe d'experts soit carrément enlevée de là, donc le chef soit enlevé de là, parce que ses propos étaient trop extrêmes. Eh bien, on a mis, pour remplacer cet expert-là, on en a mis un nouveau, M. Rajendra Pachauri, qui se retrouve à faire des déclarations comme celle-ci, qu'on a atteint le point de non-retour, et puis bon, l'administration Bush qui gringe des dents parce qu'on se retrouve encore une fois avec un expert qui dit ça va mal, surtout que ce qu'il nous dit, c'est qu'on est en train de mesurer les effets sur le climat de la pollution d'il y a 30 ans, puisque les phénomènes naturels prennent du temps avant de se manifester. On est en train d'observer les changements climatiques provoqués par nos émissions de gaz à effet de serre des années 60 et 70. Alors, c'est des déclarations comme ça qui font pas plaisir et qui, évidemment, inquiètent beaucoup un peu partout sur cette planète.
Eh bien, après The Day After Tomorrow, on va sûrement avoir The Point of No Retour. Nous sommes de retour, toujours Patrick Bonnet au micro, et je dois absolument vous parler de transport. On a commencé l'émission en parlant de cette fameuse consultation parlementaire sur l'avenir et la sécurité énergétique au Québec. Eh bien, on a parlé du document qui était incomplet, archaïque, arriéré, qui avait été orienté vers le gaz. Eh bien, ce document, il y a également un gros manque à l'intérieur de ce document. On ne parle pas de la question du transport, imaginez.
Incroyable, hein?
On ne parle pas du transport. Les transports, c'est 38% des gaz à effet de serre au Québec, c'est environ 39% de, en fait, en termes énergétiques, le pétrole est 39% de l'énergie au Québec et une grosse partie va dans les transports, on ne vous le cachera pas. Eh bien, en plus qu'on n'en parle pas là-dedans, en plus qu'on n'a pas de plan de Kyoto, d'action envers Kyoto, de mise en œuvre de Kyoto au Québec, parce que notre plan date de 2000-2002, on a le culot au niveau provincial de vouloir construire des autoroutes au point tel que M. Marcoux, le ministre des Transports, nous fait une déclaration du genre « Le Québec est en croissance, c'est une société en croissance, c'est une société qui bâtit des routes. » Donc, en l'an 2000, on bâtit des routes quand on croit et on veut construire une autoroute 25, enfin un pont pour l'autoroute 25. On revient sur ce dossier de PPP. Nicolas Milo, qui a suivi le dossier pour nous, nous en parle.
Oui, puis attendez-vous à ce qu'on le suive semaine après semaine. Je pense que ça va être un peu notre petit surroi 2005 qui s'annonce. J'ai essayé de faire un peu un topo là, assez synthétique de ce qui s'est passé cette semaine. Mais première chose, on peut vous dire une chose, c'est qu'on sait de plus en plus qu'on va savoir très peu de choses sur ces projets-là, parce que le caractère PPP, partenariat public-privé, fait en sorte qu'on ne veut pas, lors des négociations ou des pourparlers environnementaux, nuire à la concurrence. Donc, le projet, devant le bureau d'audience publique en environnement, s'il est déposé et s'il va en audience publique, ce qui sera sûrement le cas, sera une espèce de concept. Ça va être une idée de ce qu'est le pont pour que le Bureau d'audience publique en environnement, par la procédure des audiences, y ait de recommandations. Et après ça, le projet sera modifié pour qu'un partenaire privé fasse des soumissions et enclenche le projet de son côté. Donc, présentement, ce qui arrive, c'est que eh bien, tout ce qui est la question de combien va-t-il falloir payer, combien ça va coûter le projet en tout, combien va investir le partenaire privé, toutes ces questions-là, eh bien, le ministère des Transports du Québec ne veut absolument rien en dire, parce qu'il ne veut pas nuire à la saine compétition économique qu'il pourrait y avoir entre les partenaires privés. Donc, première chose qu'on sait, c'est ça. Donc, ce qui découle de ça, c'est que, dans le fond, le BAP, à quoi va-t-il servir? Mais c'est simplement à voir si le fameux projet de 25, et plus spécifiquement le pont, parce que c'est lui qui va sans doute être mis devant les audiences publiques du BAP, eh bien, on va se pencher sur des questions. Est-ce que ça dérange les grenouilles qui sont dans la rivière que le pont va traverser? Est-ce que les marais, les milieux humides vont être capables de supporter ça? Alors que la question n'est pas du tout là. La question, c'est est-ce qu'on veut 160 000 autos de plus par jour dans le centre-ville de Montréal? Et tel que proposé devant le BAP par le ministère des Transports, eh bien, ce ne sera qu'un projet et non pas une audience plus grande sur les questions de transport dans la région de Montréal. Et ça, ça fait absolument pas l'affaire, entre autres, de M. Robert Perrault du CRE Montréal, du Conseil régional de l'environnement, qui dit « C'est complètement ridiculiser les mandats que l'on peut donner au BAP de les simplifier à une simple question de grenouille. »
Aïe, je peux pas croire à ça.
C'est complètement aberrant. On sait aussi que cette semaine, la ville de Montréal a réagi. On sait qu'on attendait beaucoup de cette réaction-là, qui la semaine passée était un peu ambiguë parce qu'il n'y avait pas aucune autorité qui s'était manifestée. Eh bien, la ville de Montréal s'oppose catégoriquement à la construction de la 25, entre autres parce que c'est elle qui va en subir complètement la pression. Elle a déjà des problèmes de transport, d'engorgement de transport. Ses infrastructures routières sont déjà, voire déficientes. Si on a des projets à faire à Montréal, c'est certainement pas construire un autre tronçon d'autoroute, mais bien plus, au minimum, à entretenir ce qui existe déjà, développer le transport urbain. On sait que le maire Tremblay compte beaucoup sur le transport urbain. Claude Dauphin, le président de la Société de transport de Montréal, a pris la parole en ce sens cette semaine. Et c'est le message qui a été dégagé cette semaine du côté de la ville de Montréal.
C'est la beauté de l'environnement environnemental. Des fois, on a des opinions divergentes et Patrick Bonnet prend position ici.
C'était quoi ton son?
C'était la grenouille. Mais moi, du moins, d'après ce qu'on a vu lors du dernier mandat de M. Tremblay, le maire de Montréal, selon moi, il est loin d'être pour le transport en commun parce qu'il y a eu quelques investissements. Mais je veux dire, c'est rien d'impressionnant au niveau de la ville de Montréal en termes d'investissement. Et je veux bien croire que c'est aussi au fédéral à payer, aussi au provincial. Mais de là à dire que M. Tremblay est partisan du transport en commun, je n'y...
Ben, il est peut-être prêt à défendre l'idéologie du transport en commun, mais quand on parle d'argent,
je pense qu'il faut faire une différence entre le discours qu'ils tiennent et les réalisations qu'ils ont faites. Mais chose certaine, présentement, depuis un an, les discours du maire Tremblay, ben, de son équipe, parce que le maire Tremblay, faut juger aussi sur ses 4 années de réalisation, où est-ce qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait en termes de transport en commun. Mais où est-ce qu'on sait, par exemple, au minimum, le discours ne s'en va pas vers une expansion du réseau routier à Montréal, ce qui peut être rassurant dans ce cas-là. Ou si on rappelle le fait, c'est qu'on a construit un métro de 800 millions, allons pas scraper ça en construisant une route à côté qui va augmenter l'affluence routière.
Et il n'est pas fini ce métro-là en passant.
Il n'est pas fini encore. Ce qui est intéressant finalement que j'aimerais peut-être aborder aussi, eh bien, c'est la grande quantité, c'est aberrant, toutes les nouvelles des gens qui sont pour et qui sont contre et qui se manifestent.
Oui, il y a beaucoup de lettres dans les forums.
Beaucoup de lettres dans les forums, dans la presse, dans le Devoir, ça tombe beaucoup. Et il y a des, je pense qu'il y a une désinformation flagrante qui circule présentement, et j'aimerais simplement rappeler deux petites études qui pourraient être intéressantes, qu'on va pouvoir mettre sur le www.radiodelirium.net. On vous les met cette semaine. La recherche du Texas Transport Institute en octobre, qui disait dans son rapport sur la mobilité urbaine 2004 que tout ajout de nouveaux tronçons routiers, eh bien oui, c'est vrai, pendant un an et demi, améliore la fluidité du transport, mais tous les arguments des personnes qui disent « mon char va rouler plus vite, il va polluer moins », pendant un an, vous avez peut-être raison, mais au bout d'un an et demi, deux ans, on revient exactement à la même situation. L'exemple de la 13 à Montréal est là pour nous rappeler.
Avec 140 000 voitures de plus.
Aussi,
deuxième point.
Aussi, eh bien, vous pouvez vous rabattre sur une étude de la Chambre de commerce de Montréal qui disait cette année même que tout investissement de 1$ dans le transport en commun donne des retombées économiques de 1,48$ par dollar investi dans la communauté.
Et ça, c'est
on s'en rappelle, c'est fait par la communauté, la Chambre de commerce.
Dollars investis du gouvernement, on le rappelle. Donc, c'est intéressant pour le gouvernement d'investir dans le transport en commun. Je crois qu'il faut absolument qu'on passe à M. Schwarzenegger, qui est un petit peu mythique pour nous à cette émission. Et bien, il a rencontré notre ministre de l'Environnement, M. Dion, la semaine passée, en Californie.
Oui, il a rencontré. En fait, il y a eu des belles petites rencontres, négociations sur la question de l'automobile et comment qu'on pourrait punir l'industrie automobile pour la question de Kyoto. En fait, on revient Kyoto, au transport, c'est tout interrelié. Ça pour dire que M. Dion est en train de négocier pour réduire de 25% la consommation énergétique des véhicules au Canada, les véhicules qui seraient produits et vendus au Canada, ce qui crée un tollé. D'ailleurs, la réaction de l'industrie s'est pas fait attendre. GM, qui a lancé une couple d'arguments dans les journaux en disant, écoutez, si ces lois-là passent, mesdames et messieurs, on ne pourra plus conduire de super véhicules sport utilitaires au Canada.
Non!
Imaginez! Non. Alors, tout le monde, sortez vos Kleenex. On est triste et ça n'a pas de maudit bon sens. C'était bon. Ça son point. Mais évidemment, on ne sait pas encore ce qui va se passer, point de vue automobile. C'est la cible en ce moment de M. Dion, puisqu'il n'est pas capable d'affronter les grands de l'industrie. Il se dirige vers l'automobile, mais on ne peut pas encore se prononcer officiellement.
Mais on devrait être content d'entendre M. GM dire qu'il ne mettra plus de véhicules énergivores sur le marché, plus de SUV, non?
Ben, en fait, c'est sûr qu'en tant qu'environnementaliste, c'est toujours intéressant d'entendre, mais par contre, c'est pas tout le monde qui a le même point de vue que nous. Et évidemment, la question des véhicules énergivores, c'est pour certains très attrayant. Gros moteur, ça paraît bien.
L'histoire de la Corvette, là, c'est ça. Mais bon, on y reviendra, on fera le suivi là-dessus, de toute évidence.
Mais je veux juste mentionner une petite affaire par rapport à Kyoto, deux petites secondes. Aux États-Unis, en ce moment, se négocient des compagnies pour que les gens qui veulent diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre donnent de l'argent à ces compagnies-là, juste pour se sentir mieux, racheter des crédits de carbone et s'assurer que leur poids environnemental n'est pas si grand, puisque vous savez, les États-Unis n'ont pas ratifié Kyoto, mais on se retrouve avec des compagnies qui offrent des crédits de carbone sur un marché faux, mais juste pour encourager la diminution de pollution. Je vous reviens là-dessus, ça s'appelle TerraPass.com, mais là, j'ai pas vraiment...
C'est de la science-fiction, on dirait. Eh bien, on revient après cette petite pause, on vous parle de biodiversité et des fameux OGM, les OGM.